France Inter.
France Inter, Damien Maistre, le 5-6.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On est ce matin en bonne compagnie dans ce 5-6. On va faire la connaissance d'un cueilleur de corail, plongeur en eau profonde au large de la Corse. Ce sera la chronique littorale dans une dizaine de minutes. Métier plus classique, quoique on appelle une boulangère de Nancy à 6h moins le quart. Boulangère un peu particulière, vous verrez. La chanteuse Rosalia qui revient, c'est dans la playlist d'Inter. Et puis on parle féminisme avec une archive rare de Simone de Beauvoir que viendra nous faire écouter Patricia Martin dans le Café Philo. Bienvenue et bonne journée sur Inter.
France Inter.
Et à 5h, c'est le journal de Lukanić. Bonjour.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Les députés reprennent l'examen du budget et le RN est toujours sur son petit nuage.
Après un vote hier qui fera date pour la première fois, un texte du Rassemblement National a été adopté. Une résolution non contraignante qui dénonce l'accord franco-algérien de 1968. Le Premier ministre Sébastien Lecornu réagit hier soir. Il pense aussi qu'il faut renégocier cet accord. Accord qui permet de créer un régime d'immigration favorable pour les Algériens et que le président du RN, Jordan Bardella, demande à rompre entièrement et au plus vite.
La France doit reprendre le contrôle de sa politique d'immigration et les Français doivent reprendre le contrôle de leur destin. Depuis maintenant plusieurs années, depuis plusieurs mois de manière un peu plus significative, les Français voient un petit peu ébahis le régime algérien multiplier les provocations à l'égard de la France et notamment à l'égard de ces OQTF, c'est-à-dire des gens qui sont présents sur le sol français, qui ont une obligation de quitter le territoire français et qu'Alger ne souhaite pas récupérer. Bruno Retailleau a eu dans les mots des positions extrêmement fermes, mais dans les actes, il ne s'est rien passé. Nous nous plaidons non seulement pour la suspension de cette convention avec l'Algérie, nous l'avons obtenue par un vote du Parlement et de l'Assemblée nationale, et le Parlement aujourd'hui demande au Premier ministre et au Président de la République de prendre acte et de rompre ces facilitations qu'ont les ressortissants algériens. Encore une fois, je ne vise personne, mais la France doit reprendre le contrôle de sa politique d'immigration et nous sommes évidemment pour une fermeté diplomatique.
Jordan Bardella, invité du 20h de France 2 hier soir. La résolution a été adoptée à une voix près grâce au vote des Républicains et de certains députés Horizon. À gauche, le patron du Parti Socialiste Olivier Faure critique l'absence des députés du camp présidentiel lors du vote. La chef de file des écologistes, Marine Tondelier, dénonce, elle, un texte, je cite, d'un racisme totalement décomplexé. Les débats à l'Assemblée nationale qui s'annoncent très animés aujourd'hui encore dans l'hémicycle, reprise de l'examen du budget de l'État dès 9h. Les députés de gauche ont déposé des amendements pour créer une taxe Zuckmann sur le patrimoine des ultra-riches. Les socialistes vont essayer de proposer une version dite allégée de la taxe qui exonère les start-up et les entreprises familiales. Et en commission des affaires sociales, les parlementaires ont jusqu'à ce soir pour trouver un accord sur le budget de la Sécu avec le très attendu article 45 bis qui prévoit la suspension de la réforme des retraites. En Drôme, les recherches vont se poursuivre aujourd'hui où un homme et une femme ont disparu dans la nuit de mercredi à jeudi. Emportés avec leur véhicule par une rivière en crue, une jeune femme avait appelé le 15 vers 1h du matin avant que la communication ne soit rompue. Des moyens aériens importants sont déployés, notamment un drone avec une caméra infrarouge. La préfète de la Drôme s'inquiète hier soir. Plus nous avançons en heure, plus l'incertitude grandit.
Et la parole est à la défense aujourd'hui dans le procès des Mains Rouges.
Mains Rouges taguées à Paris en mai 2024 sur le mémorial de la Shoah, mais aussi sur plusieurs murs du centre de la capitale. 4 Bulgares sont jugés dans cette affaire. La procureure de la République a requis hier soir entre 2 et 4 ans d'emprisonnement pour les suspects. Elle a souligné le caractère antisémite du délit, parle d'une opération de manipulation, le tout sur fond de soupçons d'ingérence russe. Seuls 3 des 4 suspects sont présents à l'audience, le dernier étant en fuite et visé par un mandat d'arrêt. 2 policiers du tribunal de Bobigny ont passé la nuit en garde à vue. Ils ont été arrêtés hier matin. Une jeune femme les accuse de l'avoir violée dans une cellule du dépôt du tribunal dans la nuit de mardi à mercredi. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, évoque hier soir des agissements extraordinairement graves et inacceptables. Il promet la plus grande fermeté si les faits sont avérés. Les détails sur cette affaire avec Mathilde Lemaire.
La jeune femme a 26 ans. Elle se trouvait mardi soir au dépôt du tribunal de Bobigny dans une cellule, dans l'attente d'être déférée au parquet pour une soustraction à ses obligations légales de parent. Cette justiciable, dès qu'elle est arrivée dans le bureau de la procureure, a dénoncé les faits, a dit avoir été violée donc par 2 des policiers du dépôt, des policiers en tenue censés assurer sa surveillance et sa sécurité. Les 2 agents d'une vingtaine et d'une trentaine d'années ont tous les deux été placés en garde à vue hier matin. Ils reconnaissent une relation sexuelle avec cette femme, mais une relation, disent-ils, consentie. L'inspection générale de la police nationale, la police des polices, a été saisie de l'enquête pour viol par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Le préfet de police de Paris a hier annoncé avoir immédiatement, dès le signalement, suspendu les deux fonctionnaires. Ce dossier a très vite été dépaysé, transféré de Bobigny vers le parquet de Paris pour une complète neutralité. Au tribunal de Bobigny, les personnels sont sous le choc d'une telle affaire.
Mathilde Lemaire. Et on apprend hier que le nombre de victimes de violences sexuelles est toujours en hausse, plus 16% entre 2022 et 2023, chiffre publié par le ministère de l'Intérieur. 200 000 personnes ont été interrogées. Les violences physiques sont-elles aussi en hausse de 20% sur un an? Pour l'immense majorité, les victimes sont des femmes et des jeunes. Au Royaume-Uni, ultime disgrâce pour le prince Andrew, qu'il va falloir désormais appeler Andrew Mowen... Mowatten-Windsor,
évident.
Le frère du roi Charles, déjà défait de son titre de duc de York, va également perdre son titre de prince et être expulsé de son manoir, la Royal Lodge. Décision du monarque britannique après les révélations de Virginia Jouffré, une des victimes de l'affaire Epstein, du nom de l'ex-financier et pédocriminel. Virginia Jouffré accuse dans un livre Andrew de l'avoir forcé à avoir des relations sexuelles à 3 reprises, dont une lorsqu'elle n'avait que 17 ans.
En tennis de table, il n'y a plus qu'un seul Lebrun en lice au tournoi de Montpellier.
Alexis Lebrun, attendu ce soir pour les 8e de finale. Les 8e qui n'ont pas porté chance à son frère Félix, terrassé hier par son compatriote Simon Gauzy. Dans un match haletant, le numéro 1 français s'est fait surprendre par celui qui a pourtant été son coéquipier en équipe de France, Julien Froment.
Devant un public de l'Arena Sud de France médusé, Simon Gauzy, la tête dans sa serviette, ne peut retenir ses larmes. Il vient de battre le tenant du titre, Félix Lebrun, chez lui, 5e au classement mondial. Un exploit retentissant, c'est la première fois en carrière que le joueur de 31 ans l'emporte face au cadet des frères Lebrun. Au terme d'un match totalement fou où chacun aura eu ses temps forts, Gauzy, 17e mondial, à l'expérience, a su faire le dos rond dans les moments difficiles, notamment lors du 3e set, avant d'accélérer quand il le fallait et signer donc une victoire de prestige. Ex numéro 1 français, devenu joker de luxe de l'équipe de France, avec l'émergence puis la domination d'Alexis et de Félix Lebrun, Simon Gauzy a cette fois-ci pris toute la lumière. Qualifié pour les quarts de finale, il connaîtra son adversaire cet après-midi, soit le japonais Matsushima, soit l'allemand Francisca.
Julien Froment. Et puis on connaît la date de départ de la Route du Rhum. Elle s'élancera le 1er novembre 2026. La course de voile qui relie Saint-Malo en Bretagne à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe a lieu tous les 4 ans. Il s'agira là de la 13e édition. Le gagnant de la précédente édition en 2022, Charles Caudrillier, l'avait terminé en 6 jours, 19h 47 minutes. Et il l'annonce, il reviendra l'année prochaine défendre son titre.
Merci beaucoup Luc Anic.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Élodie Calac, la météo est de la grisaille ce matin, Élodie.
Un peu de pluie sur le nord-ouest et de la douceur. La perturbation arrivée hier par la Bretagne s'étend ce matin du pays nantais et de la Vendée vers la Normandie et le Pas-de-Calais avec un ciel parfois pluvieux. On va la retrouver cet après-midi entre le nord de l'Aquitaine, le bassin parisien et les Hauts-de-France avec seulement quelques gouttes. De petites éclaircies reviennent doucement sur le nord-ouest, mais il faut composer avec des averses sur la Bretagne. Le vent reste marqué sur le littoral. Ailleurs, le soleil se voile de plus en plus au fil de la journée. Il y a des nuages bas vers le Val-de-Saône ce matin, des nuages aussi du Roussillon vers l'ouest de la Provence et le sud de Rhône-Alpes avec un vent de sud. Il va pleuvoir sur les Cévennes cet après-midi. Il ne fait que 2 à 5 degrés sur le nord-est ce matin, 7 à 15 ailleurs. Et puis cet après-midi, ça va monter un peu partout, 15 à 19 degrés attendus au nord et 18 à 23 au sud.
Merci Élodie Calac.
France Inter. Damien Maistre. Les 5-6.
À suivre sur Inter, un plongeur corse en eau profonde dans les chroniques littorales. Notre invité déjà debout, une boulangère qui fabrique du pain pour rapprocher les gens et créer du lien. Elle nous appelle depuis Nancy. On va parler pornographie féministe dans la chronique D'où ça sort. Et puis Tanguy Pastureau maltraite l'info, maltraite aussi les routines beauté. Oublier la crème de jour, il a visiblement une meilleure idée. C'est à 5h25. Mais d'abord la musique avec l'artiste Lord. On écoute Broken Glass. Bon réveil sur France Inter.
Mystique is dead. Last year was bad. I let myself get sucked in by arithmetic. Felt great to strip. To sleep about that.
cheat about that, rot teeth about that. Did I sweat hours a week about that, compete about that, lose my freak about that, huh. All of the above.
I wanna punch the mirror to make her see that this won't last. It might be months of bad luck, but what if it's just broken glass? Spend my summer getting lost in math, making weight took all I had. Won't outrun it if you don't hit back. It's just broken glass. I'm scared to quit. To sleep about that, cheat about that, getting too deep about that. When I sweat hours a week about that, compete about that, letting her treat me like that. I think that's love.
I wanna punch the mirror to make her see that this won't last. It might be months of bad luck, but what if it's just broken?
Broken Glass de Lord, titre issu de l'album Virgin, sorti cette année. Il reste des places d'ailleurs si vous voulez la voir en concert. Rendez-vous le 27 novembre à Bruxelles. Les Chroniques Littorales. Bonjour José-Emmanuel Lamarque.
Bonjour Damien Maistre.
Ce matin, vous nous présentez un cueilleur de corail, José-Emmanuel.
En la personne de Jean-Philippe Giordano, Damien. Je l'ai rencontré récemment à Bonifacio. Nous étions face au Cap Saint-Antoine, dans ce lieu surnommé le vaisseau échoué, tout près du bonnet du marin. Devant nous, la pointe sud de la Corse. Et juste en face, le Cap Nord de la Sardaigne, Capo Testa, le village de Santa Teresa di Galur. Bonjour, Jean-Philippe Giordano.
Bonjour, pace salute et bienvenue à Bonifacio.
Jean-Philippe, vous êtes cueilleur de corail. Alors, il faut savoir que vous avez été scaphandrier, maintenant vous êtes plongeur. La différence entre le scaphandrier et le plongeur?
Alors le scaphandrier, c'est l'homme qui descend sous la mer pour y exécuter des travaux sous-marins tels que les travaux publics, les travaux pétroliers. Et le plongeur corailleur, c'est l'homme libre qui va descendre dans le Grand Bleu, loin, très au large, et qui va aller chercher ces fameuses branches de corail.
Qu'est-ce qui représente pour vous ce corail quand vous plongez à 60-120 mètres de profondeur?
Avant tout, c'est cette passion qui m'anime, sans doute un héritage direct de mon père qui était scaphandrier à Monaco. Ensuite, on grandit dans ce métier quand on veut véritablement faire une pêche sélective avec la question grand public. Ah mais c'est pas interdit de pêcher ce corail? Je croyais que les coraux étaient en grand danger sur... Oui, c'est vrai dans les zones tropicales. C'est beaucoup moins vrai par cette interdiction que nous avons 0,50 mètres en Méditerranée, étant donné qu'on travaille entre 12 et 15 degrés, là où le corail se porte très très bien.
Ce qui veut dire que c'est interdit de cueillir le corail au-dessus de 50 mètres.
Oui, oui, c'est la zone qui est pour nous la zone de respect pour les scientifiques, les clubs de plongée, les photographes sous-marins, tous ceux qui iront voir du corail, mesurer du corail, étudier du corail, qui ne rentreront pas comme nous dans de grandes séries de paliers de décompression.
Et vous, en tant que plongeur, cette Méditerranée?
Ah, c'est la Méditerranée des dieux. C'est véritablement des racines de Mare Nostrum toutes ces effluves de parfum d'iode dans les paniers que pouvait me donner papa quand j'étais sur son bateau. On remontait un sac de violets, des fruits de mer, des oursins, du corail, depuis le sens olfactif jusqu'au fond de vous et de votre mémoire. Rien ne se révèle aussi spontanément qu'un parfum pour moi qui vous rappelle tout ça. Et quand la mer vous offre un beau panier de corail, ben vous remerciez Mare Nostrum et vous dites cette relation de l'équilibre qui existe entre l'homme et la mer et l'homme et la nature est essentielle.
On dit de l'artisan que c'est l'art de la main et vous, votre art de la main, c'est la façon dont on prend le corail.
Eh bien, par exemple, pour le corail, je vais vous répondre directement. Il y a dans notre gestuelle un petit piolet, on appelle ça une martelette, ça correspond à un piolet de géologue. Et il y a dans cette gestuelle, pour moi en tous les cas, toujours un point de clivage. Si je vois une branche de corail qui a une certaine inclinaison, je comprends que le courant l'a posée de telle manière que simplement un petit geste, on sectionne le pied et ça tombe dans le panier très rapidement. Par contre, nous avons le respect de toutes les petites colonies autour. Celles qui sont les plus vivaces et reproductrices, celles-là, c'est essentiel de les conserver. On reviendra 5 ans plus tard et on aura une belle cueillette pour 20 à 30 minutes par plongée. C'est à peu près ma moyenne.
C'est la passion par le temps long.
Je ne m'imaginerai jamais faire ce travail sans passion. On y met tout, puisqu'on risque, il faut le dire de toute manière, on risque nos vies tous les jours. On fait un métier à haut risque, mais on met quand même toutes les chances de notre côté sur la sécurité, de sortir de l'eau en bonne santé.
Un aventurier de l'extrême.
Un acrobate des profondeurs.
Merci à vous, Jean-Philippe Jourdan. Un site internet corail-rouge.com. Bonne journée, Damien Mestre.
Bonne journée, José-Manuel Lamarque.
Le 5-6 sur France Inter.
5h16 sur Inter, les unes de la presse ce matin, Le Figaro et Libération reviennent tous deux sur ce vote historique hier à l'Assemblée nationale. Ce texte du Rassemblement national adopté par les députés, c'est une première. Le RN fait sa loi, titre en gros Libération, photo de Marine Le Pen, tout sourire dans l'hémicycle. Victoire surprise qui exaspère la gauche, nous dit Le Figaro, qui rappelle que cette résolution non contraignante qui vise à dénoncer les accords de 68 entre la France et l'Algérie a été adoptée grâce aux voix de la droite et du groupe Horizon d'Édouard Philippe. Des sujets qui parlent à tous les Français en une de La Croix et du Parisien. Le quotidien catholique revient sur le début du mois sans tabac ce week-end. Le pays n'a jamais compté aussi peu de fumeurs, nous rappelle La Croix. Tandis que Le Parisien s'intéresse au changement de la tarification de l'électricité entre heure creuse et heure pleine. Une petite révolution silencieuse, écrit le journal. Alors qu'est-ce qui va changer concrètement? On en parlera aussi dans les journaux de France Inter ce matin. Et puis, je souligne cette jolie une de l'Humanité. Grande photo noir et blanc. Un homme costume impeccable et regard profond, celui du poète et cinéaste italien Pier Paolo Pasolini, communiste hérétique, titre l'Humanité qui lui rend hommage. L'artiste a disparu il y a tout juste 50 ans, assassiné dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975. Son corps retrouvé sur une plage près de Rome. Un meurtre dont les circonstances restent obscures. Pier Paolo Pasolini avait 53 ans. Tout autre thème à présent, la sexualité des femmes et ce paradoxe des femmes que l'on pousse à être toujours plus désirables, mais des femmes dont on continue de culpabiliser le désir. C'était le thème hier de Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël et Cyril Lacarrière nous expliquent ce qu'est la pornographie.
Eh bien, imaginez une époque où le plaisir féminin n'existe pas, ni dans les livres, ni dans la loi, ni même dans la langue, sans mauvais jeu de mots. Pendant des siècles, la sexualité des femmes, ce n'est pas une expérience sensorielle, mais c'est une fonction. La sexualité des femmes, ça sert à procréer. Dans la Grèce antique, le plaisir masculin est partout, on le représente, on le revendique, même les philosophes en parlent. Le plaisir des femmes, en revanche, rien, silence radio. Et puis, l'Église catholique s'en mêle. Saint Augustin a écrit que le désir sexuel féminin est une conséquence du péché originel. Vous savez, quand Adam et Ève ont croqué dans la pomme. Bon, et bien pour saint Augustin, Ève, c'est l'entrée du désordre dans le monde et à travers elle, les corps des femmes. Là où le plaisir masculin peut être maîtrisé, le plaisir féminin, lui, est incontrôlable et donc potentiellement diabolique.
Jésus te baise ! Laisse-moi !
Voilà, je ne vois pas ce que Manon Mariani va faire dans cette chronique, mais enfin pourquoi pas. Et ce qui est important de savoir, c'est que la médecine s'y met aussi.
Oui, puisque jusqu'au 19e siècle, les médecins parlent de la frigidité naturelle des femmes. Entre le 16e et le 19e siècle, la médecine considère que les femmes ont un organe instable, c'est l'utérus dont ils parlent, et qu'il peut provoquer chez elles des crises, des angoisses, des convulsions. C'est comme ça que les femmes sont diagnostiquées comme hystériques. Dès lors qu'elles expriment du désir, une forme de liberté physique, hop, elles deviennent hystériques. Alors fatalement, avant que l'idée se répande que les femmes puissent regarder des contenus pornographiques, il en a fallu des évolutions et même des révolutions qui sont passées par des grandes personnalités, des séries, des comptes Instagram, des podcasts, et c'est justement le début de notre histoire.
À Cyril Lacarrière dans l'émission de Mathieu Noël. Il revient à 16h cet après-midi. Il sera question de la monoparentalité. Dans un instant, on retrouve l'humour de Tanguy Pasturo. Mais juste avant, on écoute le rappeur franco-camerounais Yamé et son titre « Dans 10 ans ».
J'ai rêvé de quelque chose d'autre que charbonner pour les autres. Moi je visais haut et j'étais seul face à mes choix. Tu devrais faire un vrai bon char, qu'il disait. Là tu ferais quelque chose. Ils n'ont que des regrets, ils cherchent nos roues pour leur bâton. Ça m'appelle beaucoup mon frère, finissez pas par y croire, non. Le vrai son, là, on va faire, pour nous c'est pas juste un plafond. Tu me verras pas ta fête, là où tout peut se faire.
Yamé dans 10 ans, Yamé qui sera le 6 novembre à Rouen, le 7 à Besançon et le 8 novembre à Dijon.
France Inter.
Et à 5h23, Tanguy Pasturo maltraite l'info avec cette nouvelle tendance beauté déroutante.
Le 13 juin 2025, Eva Longoria déclarait en interview « C'est vraiment magnifique de vieillir ». En février 2025, Liane Folly déclarait en interview « Je n'ai pas peur de vieillir, au contraire, ça m'enrichit de jour en jour ». Le 13 février 2023, Laetitia Casta déclarait en interview « Je n'ai pas peur de vieillir, ça fait partie de mon travail. Ces stars vous mentent ». Il n'y a rien de pire que de vieillir. J'ai préféré la minute qui a précédé celle-ci, parce que j'étais plus jeune d'une minute. Pourtant, il y a une minute, c'est Nagui qui était en train de parler. Seule Adriana Carambeu a raison, le 24 février février 2025, elle déclarait en interview, je cite, « La vieillesse est une salope. Elle n'y va pas par quatre chemins, comme on dit chez Weiss. » Vous remarquez qu'on pose ce type de questions en interview qu'à des femmes. Ah oui. Parce que moi, j'en ai donné des interviews. Ce matin encore, je répondais à la rubrique « La star du mois » de Loser Magazine. Parfois, l'interview se fait à 8h du matin. J'ai tellement la tête dans le huc qu'on dirait un pangolin. J'arrive à articuler le premier mot au bout du 7e café, mais c'est à Adriana Carambeu, Eva Longoria, Léane Folie, Laetitia Casta qu'on demande de jauger leur vieillissement. À moi, jamais. Je serais pour qu'on inverse les rôles. Carole Delaf, on demande quelle est sa routine beauté. Il répondrait « Ma quoi ?»« Ah bah le picon hein. !» Et qu'à une femme, on se mette à lui parler de choses intéressantes. Vieillir, la vérité, c'est qu'il n'y a rien de pire. Moi, je mets des crèmes, je bouffe du collagène marin à base de plongeurs morts parce que je ne mange pas d'animaux. Je fais du sport. Hier, j'ai essayé de comprendre le fonctionnement de l'appli École Direct de mon fils. J'ai perdu 7 litres de sueur. Je fais tout pour rajeunir, mais rien à faire, je vieillis. Mieux que vous, bien sûr, mais est-ce une consolation? On est tous à la recherche de la solution qui va freiner notre vieillissement. Moi, je crois, attention, opinion impopulaire sur une radio de gauche, qu'il ne faut pas arrêter de travailler. Voilà, jamais, jamais. Hugo Frey, ça fait 120 ans qu'il chante Santiano. Ça ressemble au plus long feu de camp de l'histoire, une sorte de conseil de Koh-Lanta qui ne s'arrêterait jamais. Et il se trémousse comme un fan de Zouk. Et hier, j'étais sur Ticketmaster quand soudain, j'ai vu passer un article de BFM intitulé « Du sperme de saumon dans les routines beauté ». Je vous explique. Vous voyez les saumons, hein, sont ces poissons très pratiques parce qu'on peut les fumer même quand on n'a pas de papier à rouler. Eh bien, figurez-vous que la Corée du Sud a créé un sérum jeunesse à base d'extraits de testicules et de sperme de saumon. J'ai appris deux choses. Que les saumons avaient des testicules. J'en ai croisé des saumons. Hein, notamment les 31 décembre soir, jamais je n'avais remarqué qu'ils avaient des testicules. Peut-être parce que souvent, je les ai vus chez le poissonnier sur de la glace. Des genoux à 4 degrés, ça rétrécit donc forcément les saumons. Hein, voilà. Et deuxième chose que j'ai appris, ce qui va de lien avec la première, c'est que les saumons produisent du sperme. S'il y avait des pornos avec des saumons qui s'appellent Coquin et sans écailles ou Ma nuit chaude avec le Capitaine Igloo, bon, on les verrait jouir, mais ça n'existe pas, ce qui fait qu'on reste très peu informé sur ce que ces dégueulasses font de leur vie. Bref, le sperme de saumon, c'est très bon pour la peau. Mais n'allez pas en Norvège tenter de les séduire dans la baignoire d'une chambre du Sofitel. Le sérum à base de sperme doit être injecté sous la peau et il faut entre 500 et 700 micro-injections. Et le problème, c'est qu'on sort de la clinique en sang. Un tel un myope qui aurait fait une pichenette à un Rottweiler pensant qu'il s'agit de fifi sous caniche. Ce n'est qu'ensuite qu'on retrouve une peau éclatante une fois que ça dégonfle. Donc il y a quand même quelques jours où quand on arrive au travail, tout le monde hurle de terreur. Hein, les gens crient « Mathilda, qui t'a fait ça encore des racailles ?» J'appelle CNews. Bon, avant de réaliser que c'est juste cosmétique. Et là, vous allez me dire « Est-ce que ça marche ?» Eh bien, j'en sais rien. Hein, voilà, j'ai pas une intimité assez forte avec les saumons pour imaginer me faire injecter leurs sécrétions dans les pommettes. J'ai interrogé un ami marseillais qui masturbe des sardines, mais il m'a dit qu'il le faisait par passion. Bon. Toujours est-il que le sérum coréen est devenu viral sur TikTok. Tout devient viral sur TikTok. Hein. Les gens se filment avec des cloques, hein, comme s'ils avaient passé l'été dans un réacteur de centrale nucléaire, et disent « Oui, mais bientôt, les loulous, je serai une princesse. » Moi, tout ça me dépasse. Mais l'engouement est tel que, selon Google, les recherches sur le terme « sperme de saumon » ont bondi de 5000% en un an. Avant la création du sérum, il y avait juste 2-3 désaxés qui tapaient ça nu sous leur ciré guicotène. Et maintenant, c'est devenu tendance, au grand détriment des saumons, mais qui sont objetisés. Qui s'intéresse à ce qu'ils sont vraiment? Qui va au-delà de ce qu'ils ont dans le bas-ventre? Ces pauvres bêtes ont le même parcours chaotique que Ryan Gosling. Voilà où nous en sommes, les amis. C'est une fin de civilisation. On s'injecte du sperme de saumon. Si ça se trouve, demain, il y aura des ovules de thon femelle en pommade ou on t'éclatera la gueule avec des sabots de caribou parce qu'une esthéticienne qui en a approché un de trop près par derrière aura constaté qu'après avoir perdu toute la mâchoire, elle a le teint frais. Et le pire, c'est que je comprends tout ça. Moi aussi, j'aimerais ne pas vieillir. Moi aussi, j'aimerais être Bruno Pecky. En gardant mon humour à moi, bien sûr. Donc écoutez, allez-y, montrez à un ami saumon une vidéo émoustillante hein, d'un congénère qui se faufile entre les pattes d'un ours. Recueillez ce qu'il faut recueillir à l'instant propice et hop, sur le visage directement, version circuit court. Parce que les piqûres, quand même, écoutez, ça fait mal.
Tanguy Pastureau a retrouvé dans la bande originale à partir de 11h. Dans un instant, le journal.
Mon petit France Inter présente...
Frisson.
L'or Grand Besançon.
Tous les jours à 21h10 sur Mon Petit France Inter, venez frissonner avec de nouveaux épisodes. La bête du Gévaudan, le phare maudit de Thévenec et le mur frappeur de la Machine. De l'étrange, du bizarre et des enquêtes qui font peur pour ceux qui aiment jouer à se faire peur.
Frisson.
À retrouver tous les soirs à 21h10 sur Mon Petit France Inter et en podcast quand vous voulez sur l'appli Radio France.
Bon réveil sur France Inter. Ali Badou vient d'arriver dans le studio. Bonjour Ali.
Bonjour Damien. Est-ce que vous êtes gamer ?
Ça fait bien longtemps que je ne le suis plus.
Gamer repenti alors, mais à 6h20, c'est la Paris Games Week qui sera à l'honneur, cet immense événement qui ne cesse de prendre de l'ampleur autour des jeux vidéo. Et notre invité sera James Rebourg, qui est président du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, et avec des jeux français qui cartonnent, vous le verrez tout à l'heure, à 8h moins le quart. Dans le débat éco, il sera question de la taxe Zuckmann. Le jour de vérité, c'est aujourd'hui, et ce sera avec Thomas Porcher et Dominique Seux. Et quant à 8h20, grand entretien exceptionnel pour parler d'un documentaire événement consacré à une addiction, et une addiction très française, boire. C'est le titre d'un documentaire dont nous parlerons avec plusieurs invités, et notamment Élise Lebivic qui l'écrit et l'a réalisé, et qui sera diffusé ce documentaire ce mardi à 21h10 sur France 2. Voilà, vous avez l'essentiel du programme, Damien.
Et bah, à tout à l'heure, merci Ali. France Inter, 5h30. Journal avec Luc Anitch, bonjour.
Bonjour.
La course contre la montre s'accélère pour les députés de la Commission des Affaires Sociales.
Ils ont jusqu'à ce soir pour examiner le projet de budget de la Sécu et il reste encore beaucoup d'articles à examiner, dont un qui sera sur la table dès 9h et qui porte sur les arrêts de travail. Il représente près de 16 milliards d'euros aujourd'hui et sa dépense progresse de près d'un milliard par an selon l'assurance maladie. Alors pour faire des économies, le gouvernement veut serrer la vis et limiter la durée du premier arrêt de travail, Luc Chemla.
Alors qu'aujourd'hui, aucune durée maximale n'est prévue, le gouvernement veut limiter le premier arrêt à 15 jours s'il est prescrit par un médecin en cabinet et 30 jours à l'hôpital. Sur le principe, c'est une bonne idée, estime Sylvie Grandjean du mouvement des entreprises de taille intermédiaire.
Il y a effectivement en France à l'heure actuelle un abus par un certain nombre de personnes et certains médecins.
Qui, d'après cette dirigeante d'une entreprise d'ingénierie, met en arrêt des salariés alors qu'ils sont en capacité de travailler. Donc, instaurer une limite, oui, mais il faut aller plus loin.
Ce qu'il faudrait, c'est de faire en sorte qu'il y ait vraiment un contrôle sérieux des arrêts de travail lorsqu'on sait que ce sont des arrêts de travail de complaisance. Abuser, ça aura un coût pour l'entreprise et ça aura un coût pour la France.
L'assurance maladie a déjà renforcé ses contrôles, mais le problème n'est pas là, répond Dominique Corona du syndicat UNSA.
Moi, je ne crois pas que les médecins ne fassent pas leur travail. Donc, il n'y a pas d'arrêt de travail de complaisance. Est-ce que les entreprises se remettent en cause sur les conditions de travail ?
Et sur le plafond des 15 jours, il alerte sur les risques de rupture de soins.
Nous avons un problème de désert médical. Imaginez qu'on vous donne un arrêt de travail de 15 jours et que vous n'ayez pas de rendez-vous pour pouvoir renouveler votre arrêt si vous en avez besoin. Bien, vous vous retrouvez en déshérence médicale. Et ça, c'est extrêmement grave.
Il faut donc, selon lui, obliger les médecins à fixer un nouveau rendez-vous au bout des 2 semaines.
Merci Luc Chemla. Et dans l'hémicycle cette fois-ci, les débats reprennent aussi dès 9h pour examiner le budget de l'État. Plusieurs amendements ont été déposés par les députés de gauche pour créer différentes versions de la taxe Zuckmann. Les socialistes prévoient une taxe allégée qui exonère les start-up et les entreprises familiales. Le débat sur le budget qui était en pause hier, journée de niche parlementaire pour le Rassemblement National, qui a réussi, pour la première fois de son histoire, à faire adopter un texte qui dénonce l'accord franco-algérien de 1968. Le Premier ministre Sébastien Lecornu réagit, il pense qu'il faut renégocier cet accord, mais il rappelle qu'il s'agit d'un domaine réservé du chef de l'État. Les autres textes présentés hier par les députés RN ont été rejetés. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, félicite les forces de l'ordre pour leur prompte intervention après l'interpellation de 6 suspects à Lyon hier. 6 suspects qui pourraient être impliqués dans le braquage spectaculaire plus tôt dans la journée. Un laboratoire de raffinerie d'or attaqué dans le 7e arrondissement avec des armes longues, une destruction à l'explosif. 5 employés ont été légèrement blessés. Les malfaiteurs avaient dérobé un butin estimé à 12 millions d'euros.
Au Royaume-Uni, chose rare, le prince Andrew va perdre son titre de prince.
Le frère du roi Charles avait déjà renoncé à son titre de duc de York, mais la famille royale annonce qu'elle met fin à tous ses autres titres et privilèges. Il va notamment être expulsé de son manoir, la Royal Lodge, décision de Charles III en raison du scandale des relations d'Andrew avec l'ex-financier et pédocriminel Jeffrey Epstein. Sauver 50% des emplois, c'est l'objectif en France des offres des 2 entreprises qui veulent reprendre la marque Claire's. L'enseigne de bijoux à petit prix est en redressement judiciaire depuis fin juillet. La marque de bijoux fantasy June souhaite reprendre 426 salariés sur les 829. Une entreprise espagnole propose d'en garder 34 autres. Ces 2 offres complémentaires doivent encore être validé le 14 novembre par le tribunal des activités économiques de Paris. En tennis, Yannick Sinner, numéro 2 mondial au classement, accède pour la première fois en quart de finale du Masters 1000 de Paris. Il y affrontera l'américain Ben Shelton aujourd'hui. Sont notamment aussi qualifiés pour les quarts de finale l'allemand Alexander Zverev ou encore le russe Daniil Medvedev. Enfin, c'est une des journées préférées des enfants, le 31 octobre, synonyme d'Halloween et de bonbons partout dans le monde. Alors si cette fête est d'origine américaine, un village en France s'est complètement emparé de cette fête. Le plan de la Tour dans le golfe de Saint-Tropez, qui se transforme en village de l'horreur, des animations terrifiantes à visiter. Ça fait 10 ans que le village organise cette journée spéciale. Le petit Raphaël, 5 ans, sera là et même pas peur.
En fait, ça parle de sorcières et ça parle de vampires, loups-garous.
Mais est-ce que tu as peur ?
Non.
Pas du tout ?
Non. Et du coup, y a aussi des toiles d'araignée avec des arbres, ça fait flipper. Aussi des gens avec la tronçonneuse, là.
Qui font peur ?
Oui, là.
Et toi, tu seras déguisé en quoi ?
En squelette. Mais pas flippé.
Squelette normal, quoi.
Ouais.
Voilà, ça surprend. Et vous, vous vous déguisez en quoi ce soir, Damien ?
En grosse citrouille.
Et vous ? Je sais pas encore. J'ai la journée pour choisir.
Et bon, ben rendez-vous ce soir. Merci, Lucas Nitsch. Un mot de la météo de ce vendredi. Réveil dans la grisaille pour la moitié nord du pays, avec un peu de pluie dans le Cotentin et en Bretagne. Ailleurs, ciel voilé mais temps sec. Une météo qui va rester à peu près la même tout au long de la journée. À noter que ça souffle dans le Pays Basque et en Bretagne, des rafales entre 60 et 80 km/h. Du Mistral aussi en vallée du Rhône. Côté température, il va faire doux toujours aujourd'hui dans le pays. Ce matin, il fait 12 à Lille et à Paris, 12 aussi à Belfort, comptez 15 à Brest, à Bordeaux mais aussi à Marseille. Très doux dès le réveil à Nice avec 19 degrés ce matin. Et puis un petit mot de votre week-end, sensiblement la même chose, mélange de grisaille et d'éclaircies. Il fera toujours très doux samedi et dimanche, même si ça va se rafraîchir en fin de week-end, notamment dans le nord de la France.
Le 5-6 sur France Inter.
La playlist d'Inter avec Mathieu Conquet, bonjour.
Bonjour Damien.
Ce matin Mathieu, vous nous parlez du nouveau morceau de Rosalia sorti mardi qui fait beaucoup, beaucoup parler de lui.
Et vous allez comprendre pourquoi Damien. D'abord, c'est seulement le premier single du nouvel album de Rosalia qui sortira lui vendredi prochain le 7 novembre. On n'avait aucune info ou presque jusqu'à mardi dernier. Cet album s'appellera Lux, la lumière en latin, et sur la pochette, Rosalia apparaît comme une sœur, une religieuse novice voilée de blanc. Mais le morceau qu'on va entendre s'appelle Berghain. Vous savez, comme ce club berlinois célèbre tant pour sa musique que parce qu'il suscite d'envie, de secrets. Vous savez, c'est très sélect, il y a des heures d'attente, vous pouvez pas tourner d'image, on vous met un autocollant sur le téléphone. Bref, est-ce qu'après avoir bousculé, sublimé le flamenco, le reggaeton, Rosalia passerait à la techno ? Pas vraiment.
Vous êtes sûr que c'est pas Vivaldi, là ?
Oui, on dirait les quatre saisons, précisément l'hiver. C'est le London Symphony Orchestra qui accompagne Rosalia. Premier indice, donc, ok, il y aura des cordes, de la musique classique européenne. Et visiblement, presque rien ne sera chanté en anglais, mais en espagnol, on pouvait s'y attendre, mais aussi en allemand. Car oui, Rosalia chante aussi très bien en allemand. Sein Angst, non, je parle très mal allemand, mais sa peur est ma peur, sa colère est ma colère, son amour est mon amour, son sang est mon sang.
Bon, on est très très loin du reggaeton, mais surtout Rosalia chante là, on se croirait à l'opéra.
Mais oui, vous l'entendez avec une technique lyrique remarquable au service d'un texte mystique. Alors il faut aussi que je vous parle du clip qui fait beaucoup parler encore, avec tout un contraste entre un quotidien trivial et une sophistication extrême. La chanteuse, on la voit dans un appartement où l'orchestre la suit partout, dans sa salle à manger, la salle de bain, quand elle fait du repassage ou encore dans le bus à l'hôpital. On croirait un rêve métaphysique qui se finit d'ailleurs dans son lit, et la psychanalyse de conte de fées n'est pas loin avec ce qui vient. Il y a une invitée énorme qui débarque au bout de 2 minutes. Allez, on joue aux devinettes. Damien, vous allez trouver, je suis sûr.
On est en Allemagne. Allemagne, on est en Islande là, je crois.
Oui,
c'est Björk, non, qui avait déjà travaillé avec Rosalía d'ailleurs.
Et en effet, il y a 2 ans de ça, la star islandaise et l'espagnole Rosalía s'étaient déjà réunies pour Oral, qui dénonçait les ravages de la pisciculture intensive de saumon en Islande. Alors, il y a des animaux encore à l'œuvre ici, puisque lorsqu'apparaît la voix de Björk dans le clip, c'est un rouge-gorge qui chante à sa place. On se croirait dans une relecture de Blanche-Neige. Et les animaux de la forêt, biches, renards, lapins, entourent Rosalía dans son appartement.
Et hormis ces animaux, est-ce qu'il y aura d'autres invités sur l'album ?
Oui, et je vous raconterai tout ça ce soir dans mon émission. En attendant, on l'écoute, mystique, bouleversante, inattendue, radicale, tout ce qu'on aime donc, Rosalía.
Beau et très déroutant. Premier extrait du prochain album de Rosalía. France Inter et partenaire, ça sort vendredi prochain. Mathieu, on vous retrouve vous ce soir avec Rosalía donc, et d'autres nouveautés ?
Oui, qui vont vous secouer encore. Je vous parlerai d'un disque qui divise et qui fait beaucoup réagir, lui aussi, celui de Petite Sœur, Femme Togo et Néo Front. Je vous parlerai de Soft Cell, dont la moitié Dave Ball vient de mourir, et puis du nouveau Tame Impala, c'est nul ou pas ? Et bien la réponse, ce soir, et je remets le son à 21h.
Ah, j'ai déjà mon avis, mais à ce soir. Le grand reportage de France Inter ce matin est à Cholet, dans les Pays de la Loire, ville qui est le berceau historique de la fabrication de chaussures. Une industrie mal en point en France, moins de 4000 salariés. Dernière illustration de ces difficultés, le groupe Royer, qui détient notamment la célèbre marque Kickers, placée en redressement judiciaire, c'était mercredi. Mais à Cholet, cette industrie résiste encore. Cécile Bidot a visité pour France Inter ces entreprises qui fabriquent de la chaussure made in France.
Donc voilà l'atelier.
L'atelier de Cléon, entreprise qui fabrique des chaussures depuis 80 ans à La Romagne, à l'ouest de Cholet. Emmanuelle Cléon, directrice générale, petite fille du fondateur, connaît chaque machine.
Donc là, on arrive à la machine, une des machines les plus importantes. Donc une tige est mise sur une forme, vous voyez.
Spécialiste de la chaussure professionnelle, Cléon n'est pas passé loin de la fermeture dans les années 90 à cause de la concurrence asiatique. Aujourd'hui, grâce à sa marque Cléman, qui marche très fort en France et surtout à l'étranger, l'entreprise emploie 75 personnes. Tout est assemblé ici et vendu autour de 200 euros. le prix du Made in France, selon David Pinault, responsable de production.
Cette belle chaussure, nous, il nous faut quasiment 4 jours pour arriver à la faire au complet. On n'a pas le choix que de faire quelque chose de beau. On fait en sorte qu'on puisse durer longtemps dans le savoir-faire français, oui.
130 000 paires de chaussures sortent chaque année de l'atelier. Mais Emmanuel Cléon continue à retenir son souffle.
On se bat tous les jours, c'est pas facile. On est dans la résistance depuis, on va dire, le Covid. Mais on n'a jamais abdiqué, on a toujours essayé de conserver ce Made in France. Et le challenge continue aujourd'hui et on espère aller vers un peu plus de sérénité.
Dans cette région des Mauges, la chaussure fait travailler 2500 personnes, dont 1600 chez Eram, l'un des leaders du secteur. On y fabrique aussi les fameuses méduses, sandales en plastique de notre enfance, remises au goût du jour par l'entreprise Humo Bopro, qui utilise aujourd'hui des matières recyclées.
En fait, le principe, c'est ça, c'est une granule de PVC qu'on reçoit déjà teintée. C'est chauffé à 180 degrés et après c'est le principe d'un moule à gaufre. En fait,
la présidente Anne-Céline Humeau représente la 5e génération de dirigeants.
Quand on est une entreprise familiale, en fait, on s'inscrit sur plusieurs générations. Et donc évidemment, ce qu'on construit, c'est pour les générations futures. Donc c'était une évidence pour nous qu'il fallait qu'on développe des matières recyclables, qu'on utilise de plus en plus de produits recyclés. Donc il a fallu qu'on développe notre propre machine pour créer ce qu'on fait aujourd'hui. En fait, il faut toujours être dans l'innovation, toujours se réinventer.
Se réinventer pour résister, un tiers des emplois de la chaussure se trouve dans les pays de la Loire.
L'objectif, c'est donc de faire perdurer ce savoir-faire plus que centenaire. Cécile, vous nous emmenez maintenant au musée des métiers de la chaussure.
Oui, à Saint-André-de-la-Marche, nom tout trouvé pour accueillir un musée qui retrace l'histoire de cette industrie. Une centaine de machines de tous âges sont exposées dans cette ancienne usine.
Donc là, je l'enclenche.
Sandy Antelme, coordinatrice du musée.
Je vais utiliser le pied pour manipuler une pédale qui va me permettre de planter un clou, comme ceci. Et on va faire ça en série. Alors, l'industrie de la chaussure est née ici, puisque les premiers ateliers, c'est vers 1880 à Saint-Macaire-en-Mauges. Et l'apogée de cette industrie, dans les années 1950, on comptait presque 500 entreprises. Et on avait coutume de dire que dans chaque bourg, il y avait un clocher et une usine.
Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une vingtaine d'entreprises qui produisent tout de même une chaussure française sur 3.
Ce sont des familles entières qui y ont travaillé. Et ça s'est ancré finalement dans les gènes, parce que quand on a des entreprises qui cherchent à relancer cette industrie ou à se réimplanter, ils vont spontanément se tourner vers les Mauges et le Choletais pour venir chercher une qualité de main-d'œuvre et de connaissances.
Et pour permettre aux entreprises de recruter, le groupement régional de la chaussure a recréé des formations qui n'existaient plus.
Le grand reportage de France Inter à Cholet, dans les Pays de la Loire, signé Cécile Bidot. Grand reportage à retrouver en images sur le site de France Inter et sur l'application Radio France.
France Inter. Le 5-6. Damien Mestre.
5h47 sur France Inter, l'heure de passer un coup de fil à notre invitée qui, elle aussi, est déjà debout. Bonjour Cécile Piot.
Bonjour.
Vous êtes boulangère à Nancy. Bon, là, j'imagine que 5h47 du matin, c'est tôt, mais pas tant que ça pour une boulangère, non ?
Non, ça fait partie. Le matin fait partie du temps du boulanger.
Qu'est-ce qu'on prépare le matin, justement, quand on est boulanger ?
Alors, le matin, ça dépend des productions, mais à cette heure-là, on peut tout simplement cuire si on veut pouvoir servir les personnes tôt le matin. Mais dans mon cas, je ne suis pas une boulangère classique.
Oui, vous êtes d'un genre un petit peu particulier. Vous êtes boulangère nomade. Vous animez des ateliers autour de la fabrication du pain avec des enfants notamment, mais pas seulement. Il n'y a pas longtemps, vous avez animé un atelier pour une entreprise avec un foyer d'hébergement d'urgence à Paris. Vous pouvez nous raconter ?
Oui, alors c'était il y a déjà un petit moment en effet, mais j'étais alors avec une entreprise qui organise des journées solidaires, donc qui s'appelle Sam Regarde, et l'intérêt de cette journée, c'était que des personnes d'une entreprise lambda prennent un jour off, enfin vraiment un jour un peu comme de RTT, et qu'ils la dédient à une cause solidaire. Donc ce jour-là, ils étaient venus dans ce centre d'hébergement d'urgence. Moi, j'étais là. Il y avait d'autres prestataires qui étaient là pour animer la journée. Et les gens qui étaient hébergés faisaient aussi partie de l'action, puisque ensemble, on a préparé du pain, on a préparé des petites choses pour le repas, on a préparé un spectacle. Et en fait, le soir était offert aux personnes qui étaient hébergées là une soirée toute particulière, puisque eux-mêmes étaient acteurs de la réussite de ce projet. Et voilà, et on a fait du pain et ensemble, et à ce moment-là, tous les masques tombent, puisque qu'on soit directeur ou comptable ou je ne sais quoi dans une entreprise, ou qu'on soit SDF et que ce soir-là, enfin ces jours-là, on était hébergé dans ce centre, mmh. Eh bien, il n'y a plus aucune, voilà, plus, il n'y a plus de filtre, on est là, on a les mains dans la farine, le but c'est de faire du pain, et on peut très bien échanger, parler de son histoire si on a envie, ou parler de rien du tout, ou parler des petites bulles qui apparaissent, parce que quand on pétrit et que la fermentation démarre, et bien il y a des petites bulles qui sont là, et s'émerveiller de ça, et tout simplement être dans l'instant.
Et chacun avec son propre souvenir, j'imagine, de pain, de boulangerie, des souvenirs d'enfance peut-être souvent.
Oui, mais oui, bien sûr, quand on commence à travailler ensemble, enfin travailler c'est un plaisir, donc quand on commence à pétrir et à façonner, et bien chacun a ce souvenir qui vient, ah oui, moi le pain je le mangeais comme ça, ou mon grand-père le faisait comme ça, ou le trempait dans la soupe, ou je ne sais quoi, ou faisait des pains perdus avec, et aussi, comme je vous parlais de cette expérience dans le centre d'hébergement du Frange, souvent il y a des personnes de culture étrangère, et c'est là où on sent que le pain est vraiment un aliment qu'on trouve sur toutes les tables, dans tous les pays, puisqu'il est différent.
Ah oui, chaque pays sa recette de pain.
Et oui, et puis surtout, chaque pays prend les céréales, utilise les céréales qui sont cultivées, qui sont plus cultivées sur leur sol. Et c'est bien logique, on va pas faire, quand on parle du, voilà, certaines céréales comme le maïs poussent mieux dans certains continents, et bien forcément, on va faire du pain avec du maïs, enfin de la farine de maïs. Et donc, c'est là l'intérêt.
Cécile Piau, jusqu'à présent, vous n'aviez pas de four, vous n'aviez pas votre propre fournil, mais ça y est, je crois que vous venez d'en acquérir un, d'un genre un peu particulier lui aussi.
Oui, alors ça va être ma boulangerie à roulettes. C'est en fait mon fournil est ambulant, c'est-à-dire que j'ai trouvé un camion avec un four à pain embarqué. Et donc ça me permettra justement de voyager avec mon pain, avec la boulangerie, et de pouvoir proposer à un endroit, enfin j'habite quand même actuellement, en tout cas à Nancy, et j'ai des points de chute, actuellement il est à Fléville devant Nancy, mais ce sera aussi donc Nancy, Lorraine et pourtour environ, mais ça peut très bien être à l'occasion d'un événement, d'un festival ou de je ne sais quoi, me déplacer, dire ah là, pour tel moment, je serai à un autre endroit pour faire du pain, et justement par exemple pour animer aussi des ateliers de transmission de savoir-faire dans un contexte particulier.
Merci beaucoup Cécile Piau, boulangère ambulante donc à Nancy. Je vous laisse travailler et commencer votre journée. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci, au revoir.
Allez, direction le Canada à présent avec l'incontournable Caribou, pas l'animal mais le producteur de musique électronique. On écoute son titre Home.
What she pleases, 'cause she's happy on her own, and she picks up all the pieces. She's going home.
Baby, I'm home, I'm home, I'm home.
Yeah, she's going home.
Baby, I'm home, I'm home.
She's better off than she is.
trust ever been. Now she's made her peace with everything. Yeah, she's going home.
Baby, I'm home, I'm home, I'm home.
Yeah, she's going home.
Baby, I'm home.
Home de Caribou, c'était en 2019.
France Inter. Le 5-6.
Et c'est Patricia Martin qui nous a rejoint avec un café philo engagé, féministe même. Bonjour Patricia.
Bonjour Damien.
Vous nous parlez ce matin d'une histoire intellectuelle très riche, le féminisme, donc avec ses racines, ses concepts et ses très nombreux courants.
Oui, alors il y a les temps forts hein, du féminisme, il y a ses figures, il y a les grands textes et les actions militantes. Vaste programme effectivement que d'évoquer tout cela. C'est pourtant ce à quoi s'est livrée Camille Froidevaux-Métry dans un gros ouvrage consacré aux différentes théories féministes. Plus de 100 auteurs, en grande majorité des autrices, issus de disciplines différentes y ont contribué. Alors on y trouve des textes généraux, des zooms sur des textes particuliers, ainsi que des œuvres marquantes. C'est passionnant et riche en découvertes. Le féminisme est aussi universel que contesté, c'est pourquoi il connaît des éclipses, il est aussi lumineux, lucide, inclusif, une façon au fond de résister à un certain penchant pour l'autoritarisme.
Bon, et on imagine bien qu'à un moment ou à un autre, il sera question de Simone de Beauvoir.
Bingo Damien, incontournable Beauvoir, terreau de la phénoménologie féministe, on l'écoute parler de l'oppression des femmes dans une perspective historique.
Ça remonte à la nuit des temps. Il y a eu un moment, à la nuit des temps, où la force physique, ça comptait énormément. Les plus forts se sont appropriés les droits, le pouvoir, de manière à avoir également de la prééminence économique, grossièrement pour être ceux qui étaient toujours sûrs de manger. C'était très visible en Chine, par exemple, où il y avait une grande pauvreté, et on laissait mourir, si eux non, on tuait les petites filles, et on empêchait les femmes de participer à la production, de manière à ce que l'homme ait vraiment tout en main. Et ça, je n'ai pas le temps de raconter ici toute l'histoire de la femme, mais il est bien évident que d'époque en époque, il y a eu toujours une volonté des hommes de prendre le pouvoir. Je n'en citerai qu'un exemple. Au Moyen-Âge et dans les siècles, enfin à la Renaissance, les femmes avaient beaucoup de pouvoir comme médecins. Elles connaissaient des quantités de remèdes, des herbes, des remèdes qui étaient des remèdes de bonnes femmes et quelquefois très valables. Eh bien, la médecine leur a été prise des mains par les hommes. Toutes les persécutions contre les sorcières ont été essentiellement fondée sur cette volonté des hommes d'écarter les femmes de la médecine et du pouvoir qu'elles donnent. Et ensuite, alors, au XVIIIe, au XIXe siècle, il y a des statuts faits par les hommes qui interdisent rigoureusement, sous peine de prison, d'amende, etc., aux femmes d'exercer la médecine si elles n'ont pas suivi certaines écoles auxquelles, par-dessus le marché, on les acceptait pas. Je pense que si on prenait d'autres domaines, on trouverait tout à fait les mêmes processus. Il y a donc en effet une volonté. Et maintenant, cette volonté n'est peut-être plus de prendre, mais c'est en tout cas une volonté très 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 forte de garder. Il y a des barrages qui se font partout lorsque les femmes veulent accéder à certaines qualifications ou à certains pouvoirs.
Incroyable archive, Simone de Beauvoir. Rendez-vous ce soir à 20h10 dans l'heure philo. Patricia, Camille Froidevaux-Métry sera votre invitée pour l'ouvrage qu'elle a dirigé. Ça s'appelle « Théorie féministe » publié au Seuil.
Un livre à mettre entre toutes les mains, mon cher Damien, y compris des mains masculines.
C'est bien noté, je prendrai mon exemplaire. À ce soir.
À ce soir.
Tous les dimanches soirs sur France Inter,
Annie Ernaux, c'est cette grande écrivaine,
Denis Podalydès, et ses admirations littéraires.
Une écriture qui raconte à la fois un destin singulier et un destin collectif.
Denis Podalydès nous lit les textes qui l'inspirent.
N'importe qui, dans les lignes d'Annie Ernaux, aussi belle soit-elle, peut retrouver ce qu'il a senti, ce qu'il a vécu, ce qu'il a éprouvé.
Les admirations littéraires de Denis Podalydès, c'est ce dimanche après le journal de 19h sur France Inter.
La météo.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Élodie Calac, temps mitigé aujourd'hui.
Des éclaircies, mais quelques pluies sur le nord-ouest et les Cévennes. Les pluies arrivées par la Bretagne hier s'étirent ce matin des Pays de la Loire vers la Normandie et le Pas-de-Calais. Elles vont s'espacer cet après-midi en se décalant vers l'est. Il y aura juste quelques gouttes du nord de l'Aquitaine vers la région parisienne et les Hauts-de-France. Sur le nord-ouest, le ciel devient progressivement plus changeant avec le retour de quelques éclaircies. Des averses sur l'ouest de la Bretagne essentiellement et du vent jusqu'à 70 km à l'heure. En allant vers l'est, le soleil est parfois voilé. Il le sera davantage cet après-midi. Il faut aussi composer avec des grisailles ce matin dans le Val Val de Saône et puis du Languedoc-Roussillon vers les Bouches-du-Rhône et le sud de Rhône-Alpes. Le vent apporte beaucoup de nuages. Il pourrait déborder vers la Côte d'Azur cet après-midi. Ils donneront un peu de pluie sur les Cévennes. Ce matin, comptez souvent 7 à 15 degrés, pas plus de 2 à 5 sur le nord-est. Et puis cet après-midi, de la douceur, 15 degrés à Cambrai, 16 à Paris et Strasbourg, 19 à Bourges, 20 degrés à Lyon, à Toulouse, 21 à Bordeaux et 23 à Perpignan ou à Bayonne.
Merci Élodie Calac et bonjour Ali Badou.
Eh bien bonjour et bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Bonne journée à vous et au programme de ce vendredi à 6h20. Nous plongerons dans la fournaise du Paris Games Week avec son organisateur James Rebourg qui est président du CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Il sera notre invité et il nous racontera la révolution en cours dans l'univers magique du jeu vidéo. Et à 7h45, le débat éco tournera autour de la taxe Zuckman, le jour de vérité. Nous en débattrons évidemment avec Thomas Porcher et Dominique Seux. Et à 8h20, dans le grand entretien, un documentaire événement consacré à une addiction, et une addiction très française. Boire, c'est le titre de ce film dont nous parlerons avec plusieurs invités, dont la réalisatrice et celle qui a écrit Boire, Élise Le Bivy. Film qui sera diffusé ce mardi 4 novembre à 21h10 sur France 2, un film important. Voilà pour le programme et merci d'écouter France Inter. Bon réveil, il est 6h.